Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je suis en studio à RVM, à Crépy-en-Valois, et je reçois Thierry Bireur. Bonjour Thierry.
Bonjour Fred.
Thierry Bireur, c'est un auteur-reporter qui raconte la vie avec des mots et des photos.
Je me limite pour des questions de savoir-faire, de compétences, d'apprentissage, de suivi, etc. à une zone qui va, donc un triangle, donc vous tracez la Palestine, premier point du triangle, le deuxième l'Afghanistan, le troisième l'Ukraine. Donc tous ces pays qui sont contenus dans ce triangle, c'est-à-dire l'Ukraine, les pays autour de la mer Noire, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Palestine, la Syrie, la Turquie sont les pays qui m'intéressent et où je voyage. Donc le monde entier est limité à ce triangle.
On limite au triangle. Mais alors pourquoi ce triangle-là ? Comment est venu ce projet alors ?
Alors, ce projet est venu très très vieux, prise d'otage des sportifs israéliens aux Jeux de Munich 1972, par les Palestiniens. Je rentre, je suis alors un petit collégien, je rentre avec mes parents de vacances en Espagne. On est en retard parce que mon père doit travailler le lendemain et on est dans la province de Teruel, c'est la nuit, il nous reste 1400 km pour rejoindre le travail de papa, donc on va être très en retard, et c'est le dimanche, et mon père s'arrête au bord de la route pour écouter ce qui se passe à Munich, et je l'entends dire, ils font chier ces Palestiniens, donc excusez-moi cher auditeur, auditrice, et du coup, mon premier souci en rentrant, c'est pourquoi mon père est-il vindicatif comme ça à l'échelle des Palestiniens. J'ai donc creusé, et ça m'a conduit à m'intéresser au problème de l'éducation des personnes déplacées et des réfugiés.
Ok, donc c'est comme ça que votre parcours a commencé ?
Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que la position de mon père, que j'entendais à la maison de façon répétitive, parce que mon père, ancien militaire, enfin, c'était très carré, et était pro-israélien, j'ai découvert que la vie n'était pas aussi simple que ça, que ce n'était pas tout blanc, tout noir. Mon père n'était pas d'accord que je m'intéresse à pourquoi les Palestiniens étaient dans cette souffrance qui les entraînait dans cette révolte armée. Je suis contre les armes, moi-même étant d'une famille de réfugiés qui a fui la guerre. Mais mon père n'était pas d'accord, du coup j'ai fouillé par moi-même en silence, hein, je veux dire sans l'approbation de mes parents. Et puis, j'ai continué à creuser. Ça m'a amené en Afghanistan en 79 quand j'étais étudiant. Donc en décembre 79, quand les Russes sont rentrés en Afghanistan, je suis parti avec un copain pour justement parler de ce que le monde occidental ne parlait pas à l'époque. Et puis, depuis, je m'intéresse à comment on va à l'école quand on est réfugié, quand on est demandeur d'asile, quand on est migrant, et surtout quand on est déplacé à l'intérieur des zones. Donc aujourd'hui, il y a des conflits en Ukraine, il y a des conflits. Donc j'ai commencé par la Palestine dans les années 80, et puis petit à petit, je me suis intéressé à la révolution syrienne en 2011, au problème irakien en 2003, au problème afghan en 2001, etc.
Donc vous êtes resté toujours journaliste indépendant, quoi. Vous n'êtes jamais rentré dans une structure.
Alors j'ai toujours été indépendant. Il m'est arrivé de travailler la radio, mais c'était des piges indépendantes. J'ai toujours été indépendant. Je choisis mes sujets. Je veux être libre. En tout cas, du moins tenter de le rester parce que il faut quand même payer son loyer, financer ses voyages, etc. Mais ça me permet de faire des travaux de façon libre et je les vends après aux médias, aux journaux, une fois que je rentre, parce que parfois je me lance dans des sujets qui demandent des semaines, des mois. Et aujourd'hui, le système économique de la presse écrite, des news magazines qui sont bien moins nombreux que dans les années 70, font qu'il n'est plus possible, c'est très très dur d'obtenir un financement pour partir 2 mois ou 3 mois en reportage. Voilà.
Alors qu'est-ce qui vous stimule encore dans ce métier ? Qu'est-ce qui vous motive ?
Alors quand j'ai commencé dans les années, à la fin des années 70, en 79, j'avoue que je suis parti en Afghanistan en pensant qu'une photo pouvait arrêter la guerre. J'aurais dû par mes lectures penser que beaucoup de photos ne l'avaient pas fait, mais j'étais dans cette idéologie là 22 ans avec mon appareil photo, je peux moi dénoncer des exactions. Et puis je me suis rendu compte que petit à petit, une fois j'ai dit aux lycéens de Jean Monnet à Crépy que je faisais un métier qui ne servait à rien, puisque depuis 30 ans, je répétais toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, et que rien ne changeait dans le monde. Voilà, des photos qui ont fait World Press et qui n'ont pas changé le monde. Hein, ce petit Eylan sur la plage en Turquie, je pensais qu'elle était tellement choc qu'elle allait quand même secouer les opinions occidentales sur ce qui se passait en Syrie. Et cette photo d'Eylan sur la plage, c'est en septembre 2015, donc il y a maintenant presque 3 ans, 2 ans et demi. Et tout le monde a oublié ce petit garçon. Il y a eu d'autres photos terribles.
Les guerres continuent. Il était noyé, c'est ça?
Oui, il était noyé. Son bateau avait fait naufrage au large. Et lui, ainsi que d'autres, cette photo est devenue, entre guillemets, iconique du malheur des réfugiés syriens. Mais il y a eu une bonne douzaine de noyés dans ce bateau cette nuit-là. Oui. Voilà. Alors, pourquoi je continue? C'est une question qu'on me pose souvent, parce que je viens d'avoir 60 ans. Et j'ai eu une année 2017 qui s'est très mal passée parce que j'ai vécu des choses un peu horribles, mais qui sont le quotidien de populations, notamment en Irak. Je continue parce que je pense qu'il faut, ce matin j'ai parlé devant des élèves de BTS, de Jean Monnet, il faut que des gens racontent que oui, on a la chance de vivre dans une des 5 premières puissances mondiales, on a tout ici. Mais on se doit d'être bienveillant, fraternel, accueillir, comprendre. Et il faut, pour moi, c'est pas dire une mission, mais en tout cas, si je sers à quelque chose sur Terre, c'est voilà, faire de l'information, prendre du temps, donner du temps au temps pour raconter à des lycéens, à des collégiens ou même à des post-bac en université, que vous avez la chance, vous, d'être assis aujourd'hui dans une classe, ça vous paraît normal, ça vous paraît logique, même vous râlez parce qu'on vous oblige à y aller, et bien il y en a d'autres qui meurent pour avoir ce droit-là. Et voilà, il faut être conscient qu'on a une chance extraordinaire de vivre, comme je viens de le dire, dans une des 5 premières puissances mondiales, avec tout. On a tout, on peut tout résoudre, on ne le fait pas, bien sûr, on devrait le faire, on pourrait le faire, on peut le faire, mais il ne faut pas oublier qu'ailleurs, d'autres souffrent et il faut ouvrir notre cœur, notre compréhension, notre pensée, être fraternel. Voilà.
Alors vous, comment vous faites pour vous informer? Vous allez où?
Alors, je lis beaucoup. Je viens d'avoir 60 ans, le 21 décembre, je me suis offert 60 livres. Avec un meuble pour les ranger dedans. Alors il y a tout, il y a de la sociologie, il y a des thèses sur l'Irak, il y a des thèses sur la Syrie, il y a de la poésie, il y a du Zola, il y a, voilà. Je lis énormément, quand les gens viennent chez moi, c'est des milliers de livres, des milliers de revues, voilà, des stocks de Monde depuis des années, c'est une véritable bibliothèque, j'achète sans cesse des archives et je me documente aussi par Internet. Je lis énormément, sur toujours ce triangle, Ukraine, donc Palestine, Afghanistan. Et puis, sur le terrain, je discute. Pour moi, ma première source d'information, c'est les gens comme vous. Voilà. Je vais chez les gens, c'est-à-dire que quand je pars dans un pays, j'ai jamais une chambre d'hôtel d'avance. Je vois sur place chez qui je vais dormir. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Comment ces gens qui vivent des traumatismes peuvent continuer à aller à l'école. Voilà. C'est ça qui... c'est là que je vais prendre l'information et puis après, j'essaye d'être objectif. Alors je dis toujours, j'essaye d'être le moins subjectif possible. Parce que c'est très très dur d'être objectif. Je pense que c'est même impossible. Donc j'essaye de rentrer au plus profond, de donner du temps au temps, d'interroger les gens, de comprendre pourquoi ils ont cette souffrance. Et pour le comprendre, d'être avec eux, voilà, de faire des choses qu'on ne nous donne pas le temps de faire quand on est salarié du Figaro, du Monde, de l'Express. C'est par exemple traverser les Balkans avec un enfant afghan sur le dos pour comprendre la souffrance qu'ont ces gens quand ils marchent pendant des centaines de kilomètres à travers un pays dont ils ignorent la langue en suivant la voie ferrée. Parce que ça paraît pas, mais marcher sur les balasses des voies ferrées, ça vous détruit les chaussures, ça vous tord les chevilles et c'est hyper douloureux. Et tous ces gamins et tous ces gens ont des traumatismes qu'il va falloir un jour soigner parce que 300 kilomètres le long d'une voie ferrée, quand vous êtes européen en bonne santé, c'est déjà dur. Mais quand vous avez des chaussures qui ne sont plus en état... parce que vous avez déjà fait 2000 km à pied à travers l'Iran. Là, ça devient extrêmement difficile. Donc voilà, ça permet de mieux comprendre. C'est ma façon de travailler. Je dis que je suis toujours embarqué, parce que je vis avec les gens. Je ne suis pas un reporter de guerre, je suis un reporter qui s'intéresse à la vie dans les zones de guerre et de comment on vit des conséquences de la guerre. Mais je ne suis pas un reporter de guerre. Ça ne m'intéresse pas d'être cette fois embarqué dans un véhicule militaire et de raconter la guerre.
Il y a quand même du danger dans ce que vous faites
Oui, il y a des dangers. Il y a du danger puisque malheureusement la famille qui m'accueillait a été bombardée en Ukraine il y a 3 ans. Donc effectivement, quand je montre ces photos aux collégiens, aux lycéens, ils sont effrayés en disant mais vous étiez là. Oui, ça c'est mon lit, ça c'est la pierre qui a évité ma tête. Mais voilà, je suis là. En Irak l'an passé, ça s'est assez mal passé. Je suis tombé dans une embuscade de Daesh et il a fallu 5h15 avant que l'armée américaine n'écrase tout et ne pilonne tout et qu'on soit libéré. Au final, il y a quand même eu 17 morts des gens qui étaient avec moi. Mais c'est le quotidien de tous ces gens. Et pourtant, ils m'accueillent toujours à bras ouverts. Ils m'ont toujours proposé un thé, même quand ils étaient dans une maison en ruine. Et c'est ça qui me fait beaucoup réfléchir. C'est quand je rentre ici, où nous avons tout, n'importe qui peut inviter, sauf le pauvre gars qui est SDF, mais n'importe qui peut inviter n'importe quand chez lui, partager. Là-bas, ils ont bien, bien moins que nous. Dans des conditions qui sont terribles, il n'y a pas d'électricité, enfin les problèmes de réseau, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, en Irak, en Syrie, c'est calamiteux. Et pourtant, même quand vous ne parlez pas farsi, même quand vous ne parlez pas pachtou, même quand vous ne parlez pas sorani, enfin, qui sont des langages employés par des millions de gens dans ces régions-là, ils vous accueillent, ils vous partagent, ils vous donnent un bout de lit, ils vous donnent leur lit, parce que voilà, j'ai 60 ans, donc parfois je suis plus âgé, donc obligatoirement, on respecte le plus âgé. Et nous, on n'a pas ça en France et je trouve ça dommage parce qu'on perd énormément.
Alors, vous avez un moyen de faire parler de ce que vous faites et puis de découvrir aussi ces pays. Vous faites une conférence donc le jeudi 18 janvier 2018 à 19h au Café associatif au Bon Coin. Donc, vous êtes accompagné de Mounir Alamar, qui est professeur. Vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Oui, alors, je me suis rendu dernièrement au Liban, en Syrie, dans les camps de réfugiés. Alors, surtout... au Liban pour différentes interviews réalisées avec différents partenaires, notamment l'UNESCO. Je ne suis pas prophète en mon pays, donc les médias avec lesquels je travaille sont portugais, canadiens, allemands. Et j'ai réalisé des interviews en demandant à des enfants réfugiés dans des camps qu'est-ce que vous pensez de l'école ? Voilà. Donc des garçons et des filles. Donc ça fait l'objet de toute une conférence sur le sujet, conférence que je fais demain d'ailleurs dans un lycée à Soissons, le lycée Saint-Rémy, qui m'accueille. Mounir Alamar est un professeur de français à Damas qui a dû fuir lui-même le pays parce que ses enfants ont déserté, donc sa sécurité est en jeu. Il a lui-même dû fuir, il est arrivé à Soissons, il est venu à une de mes conférences où je collectais de l'argent pour l'Irak l'an passé. Et il m'a dit, ce que vous faites, c'est génial, donc j'ai envie de vous aider. Du coup, on a mis en place un... Lui raconte comment était l'éducation en Syrie avant 2011, et moi, je raconte comment l'éducation en Syrie est aujourd'hui, sachant que 4400 écoles sont totalement détruites et que des milliers d'autres ne peuvent fonctionner, notamment parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les grands réseaux ne marchent pas, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Et puis, un quart de la population a fui, et les gens qui fuient sont d'abord les gens qui ont la capacité de fuir, soit l'argent, soit l'intelligence, donc les ingénieurs, les profs, etc. Et il y a une pénurie complète de professeurs, puisque plus de 70% des enseignants ont fui le pays.
Merci Thierry. Alors malheureusement, on est pris par le temps, donc c'est l'oreille dans le coin. Vous vous doutez bien que c'est limité en temps. Par contre, ce que je vais proposer à Thierry, c'est de venir nous revoir régulièrement, s'il veut, pour nous parler des livres qu'il a écrits, parce qu'il y en a pas mal. Donc, carnet de reportage avec des réfugiés en Grèce, Open the Border, c'est ça ?
Oui, oui.
Il y a du collégien au lycéen, il y a Constant H, un soldat sur le front d'Orient, il y a Là où est la vie, etc. Enfin, il y en a tellement. Moi, je vous conseille, les auditeurs, d'aller sur le blog de Thierry Birrer. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse ?
Oui, alors, j'ai effectivement un site, donc c'est www.birrer.fr. Vous tapez Thierry Birrer dans Google, 99 des 100 premières réponses, c'est moi. Il n'y a pas beaucoup de Thierry Birrer dans le monde, on est 4. Et les autres ne sont pas reporters. Voilà, donc www.birrer.fr. Sauf que je préviens d'emblée, je raconte le malheur et mes textes ne sont pas très gais, même si certains sont très drôles. Parce que, voilà, même en temps de guerre et en zone de guerre, il y a des choses qui sont drôles. Mais souvent, mes textes sont tristes parce que les situations que je vis sont tristes et je m'intéresse aux enfants. Donc, il y a souvent des interviews d'enfants et des textes d'enfants. Et ça n'est pas joyeux, je m'en excuse par avance auprès des futurs lecteurs, lectrices. Voilà. Mais c'est aussi ça la vie, c'est pas seulement Noël chez nous. Malheureusement, Noël dans les camps, il n'y a pas de cadeau.
Merci Thierry de votre passage à l'antenne sur RVM 93.7. Donc, je rappelle la conférence « L'éducation en Syrie » avant 2011 et aujourd'hui. Ça sera le jeudi 18 janvier 2018 à 19h au Café associatif au Bon Coin, 2 rue du Pot d'Étain, à Soissons. D'où est originaire Thierry, si je ne dis pas de bêtises ?
J'habite dans cette ville depuis 20 ans, mais je suis né en Algérie.
Pas originaire alors, voilà. Ah. Okay. Merci Thierry.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis, je souhaite à tous les auditeurs et auditrices une année fraternelle, chaleureuse et bienveillante.
Bonne écoute sur RVM 93.7. À bientôt.
L'oreille dans le coin.
Auditrices, auditeurs,
à très vite sur l'antenne d'RVM.